Vous écoutez RTL. RTL.
Jusqu'à 22h.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans votre curiosité. Salut Thomas.
Comment ça va Sidonie en cette journée? C'est pas facile, mais on avance et on vous propose, tiens, au programme, cette femme dont le nom est à jamais associé à la fermeture des maisons closes, vous l'avez entendu, Marthe Richard. Saviez-vous qu'elle a aussi été une aventurière, une pionnière de l'aviation? Une espionne, c'est vraiment un destin hors norme, comme on aime les raconter ici.
Alors qu'on annonce qu'elles ont rapetissé de quelques centimètres, on va se passionner pour notre petite sardine. Ce poisson délicieux que l'on pêche depuis l'Antiquité en France. 38 kilos de sardines sont pêchées chaque minute en France. Comment attrape-t-on ?
Chaque minute,
mais oui, énorme. Vous imaginez ? Comment est-ce qu'on l'attrape cette sardine ? Comment on la conserve aussi ? Parce que c'est un poisson très délicat. Toutes les réponses dans la seconde partie de l'émission. Et tout de suite, bienvenue chez les amis.
La curiosité est un vilain défaut.
Je vais te faire visiter la ferme et te montrer ce que j'y faisais.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Afin de limiter au maximum les contacts avec le monde extérieur, les Amish nous dissuadent d'avoir un téléphone chez nous.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Ça, c'est les toilettes extérieures. Voilà le jardin. L'été, on est tout le temps dehors parce qu'il nous donne beaucoup de travail. Entre préparer les conserves et arracher les mauvaises herbes, il y avait beaucoup à faire. Mais pour nous, c'était comme un jeu.
La curiosité est un vilain défaut.
Mais qui sont les Amish ? Qui sont ces gens pour lesquels le temps s'est arrêté au XVIIe siècle ? On va en parler avec nos deux invités. Bonsoir Catherine et Jacques Légéré.
Bonsoir.
Soyez les bienvenus.
Merci.
Vous êtes journaliste et vous connaissez bien cette communauté. Vous avez été accueillis dans des familles Amish de Pennsylvanie. C'était à quelle occasion ?
À l'occasion d'un traitement de réhabilitation neurologique que nous avons proposé à notre fils David. On trouvait rien pour lui, en fait, en Europe.
De quoi souffre-t-il ?
Bah, on ne sait pas. on est sans le diagnostic, mais David, il est polyhandicapé. Voilà, qui va peut-être résumer la situation.
Et pourquoi vous rencontrez les Amish à cette occasion ?
Alors, précisément parce que nous avons eu la possibilité de lui proposer un traitement à Philadelphie, un traitement de réhabilitation neurologique qu'on ne pouvait pas trouver chez nous. Et à cette occasion, on peut peut-être parler d'un hasard géographique au premier abord, puisque les Amish se trouvent à 2 heures de route de Philadelphie, et que nos amis en Amérique nous disaient « Mais allez les voir, c'est d'anciens Suisses, ça va vous intéresser. » Alors au début,
parce que vous êtes Suisse, hein.
Oui. Au début, c'était pas très possible parce que David n'était pas en état de voyager. C'était un petit garçon de 3 ans et demi à l'époque. Puis finalement, au bout d'une année ou deux, avec des progrès évidents qu'ils pouvaient faire, on s'est rendu chez les Amish pour la première fois, sachant pas du tout, nous autres, on mettait les pieds, bien qu'on avait vu, comme vous, Witness, ce film qui a fait...
Avec Harrison Ford.
Oui, avec Harrison Ford, qui a eu beaucoup de succès.
Et qu'est-ce que vous découvrez quand vous arrivez chez les Amish ?
Et on découvre, alors on ouvre la porte de la voiture et on est pris par une odeur de chevaux. Le cheval est très très présent dans cette communauté et on est surpris par ça. C'est la première impression. On est dans une très très belle campagne et on sent cette présence du cheval. Ensuite, on entend des sons, des petits sabots comme ça, et on voit nos premiers buggies. Effectivement, ces carrioles très particulières qui sont tirées par des chevaux. Et petit à petit, on entre en contact avec eux et ça va devenir une histoire de 30 ans de relation
et d'amitié.
Et d'amitié.
Et ils ont une capacité d'accueil, notamment pour un enfant comme le vôtre, que d'autres n'ont pas. Est-ce que vous diriez ça ?
Je dirais que David a été le sésame ouvre-toi auprès des Amish, parce que les Amish sont très réservés. D'autant plus après le film The Witness, qui a eu un succès énorme et qui a provoqué des afflux de touristes quasiment en quart qui venaient voir les Amish de près. Ils ont détesté ça, évidemment. Et donc, ils sont restés sur la réserve. Et David a été le sésame ouvre-toi dans la mesure où ils nous ont vus une fois, deux fois, trois fois au cours des ans avec ce petit garçon dans les bras. Et un jour, ils nous ont dit « Mais entrez, asseyez-vous. Et pourquoi vous venez ici ? Et qu'est-ce que vous venez chercher à Philadelphie ?» Et on leur a raconté. Et ils nous ont dit « Ben nous aussi, on a des enfants handicapés. Vous allez peut-être... nous dire ce que vous venez chercher. »
Et cette histoire incroyable, Catherine et Jacques Légéré, vous la racontez dans l'énigme Amish, c'est aux éditions Labor et Fides. C'est que le début du voyage dans la curiosité avec vous. Vous nous faites pénétrer dans cette communauté d'Amish dans un tout petit instant.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
C'est une communauté à part. Ils ont décidé de continuer de vivre comme au XVIIe siècle, refusant d'utiliser par exemple l'électricité, parlant un dialecte allemand ancien. On part à la rencontre des Amish avec Jacques et Catherine Légeret. Dans votre livre « L'énigme Amish », vous nous expliquez qu'ils sont originaires d'Europe et même plus précisément d'un petit village alsacien. C'est quoi leur histoire aux Amish ?
Bon, ce sont les descendants des anabaptistes zurichois. Les anabaptistes étaient des protestants qui refusaient l'autorité de l'État. Mmh. Ils demandaient la séparation totale de l'État et de l'Église, ce qui était révolutionnaire à l'époque. Ils refusaient la violence. Et puis, ils refusaient de payer les impôts parce que ces impôts permettaient de créer la violence. Voilà. Et puis, ils refusaient aussi le baptême des enfants, pour des raisons religieuses un peu trop longues à expliquer ici.
Donc, ils sont suisses ou ils sont alsaciens ?
À l'origine, ils sont suisses.
Hein. D'accord.
Ils sont suisses. Et puis, ils ont été tellement persécutés qu'en 1536, un moine catholique hollandais qui s'appelait Menno Simons a réorganisé le mouvement des anabaptistes, puis il a donné son nom au mouvement, Mennonite.
D'accord.
Menno a donné son nom au mouvement.
Ouais.
Et en 1693, alors là, je vais vite. Hein,
dans vous êtes obligé, oui.
Mais en 1693, il y avait des Mennonites à Sainte-Marie-aux-Mines, dans le Val d'Argent, et puis il y a eu une dispute théologique. Et puis, il y avait un évêque bernois qui s'appelait Jacob Amann, qui a eu une violente confrontation avec les Mennonites de Sainte-Marie-aux-Mines, et il a provoqué un schisme. Et tous ceux qui ont suivi Jacob Amann, on les a connus sous le nom d'Amanish, par contraction Amish.
Ah. Et voilà, comment ils arrivent aux États-Unis, les Amish ?
Ben, ils arrivaient aux États-Unis parce que Louis XIV a supprimé d'un trait de plume en 1712, je crois, tous les privilèges qui étaient accordés aux Amish et aux Mennonites. Alors là, par vagues successives, ils ont décidé d'aller prioritairement en Pennsylvanie parce que c'était là que William Penn avait créé un havre d'accueil pour tous les persécutés d'Europe. Et à l'époque, il y en avait beaucoup.
On dit qu'en Pennsylvanie, pardon, il y a des villages d'Amish. Le terme est exact ?
Non, le terme est complètement erroné. Ce sont les Américains qui savent faire du pognon en utilisant le mot Amish, mais il n'y a pas de village Amish. Les Amish vivent exclusivement dans des fermes. Pour eux, c'est capital d'être près de la terre. C'est l'outil que Dieu leur a donné, donc ils vivent dans des fermes et non pas dans des villages.
Mais est-ce qu'ils sont quand même réunis ? Est-ce qu'ils sont entre eux ou est-ce qu'ils se mélangent à la population ? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut y avoir une ferme Amish et puis à côté, des Américains moyens, entre guillemets ?
Oui, absolument. Ils sont mélangés avec les Américains, avec d'autres Mennonites, avec d'autres gens. C'est ce qui prête à confusion. On croit qu'ils vivent dans des villages, mais pas du tout.
Sauf que les Amish ont vraiment des valeurs bien à eux, très particulières. Ça repose sur quoi, ce socle de valeurs ?
Ben, ça repose sur une lecture littérale de la Bible. Puisqu'on est en pleine actualité, on peut dire que la première valeur chez eux, c'est la non-violence absolue. Donc au cours de l'histoire, ils l'ont payé très cher, hein, la non-violence physique. Ils ont été persécutés pendant un siècle et demi.
Ils n'ont pas pu se défendre, en fait.
Ils refusent de se défendre. Et chez eux, la non-violence, c'est bien plus large. C'est le refus de la compétition. Quand les Amish font un sport, ils comptent pas les points, il n'y a pas de vainqueur, il n'y a pas de vaincu.
C'est sympa de jouer aux cartes avec eux.
Ouais. C'est le refus de la confrontation des mots, parce qu'ils savent que toutes les guerres, toutes les persécutions commencent par des mots.
Dans votre livre, L'énigme Amish, qui est publié aux éditions Labor et Fitt, vous dites « Les Amish sont dans le monde, mais pas du monde ». C'est quoi la nuance ? Ça veut dire quoi ?
Donc, ils vivent physiquement dans ce monde, mais sur le plan spirituel, ils ne font pas partie de ce monde. C'est aussi une lecture littérale de la Bible. Donc, ils doivent accepter d'être dans ce monde, parce que Dieu a voulu ce monde, selon eux, même s'il est imparfait. Donc, ils doivent obéir aux lois de ce monde. Mais en même temps, ils doivent se comporter par rapport, si possible, par rapport aux lois divines. Ce qui n'est pas facile. Hein. Il faut toujours trouver l'équilibre. Mmh.
Pourquoi est-ce que les Amish ont cette tenue ? Ils sont tous habillés pareil. C'est une tenue qui date de quoi ? Du XVIIe siècle, c'est ça ?
Alors là, c'est le fameux Jacob Amann, qui était tailleur de son état, qui, une fois pour toutes, à Sainte-Marie-aux-Mines, a dessiné le patron de la robe des femmes Amish, qui est toujours le même aujourd'hui.
Et a dessiné. Alors c'est comme une grande robe, c'est
oui,
ça ?
Oui, c'est une grande robe.
Ouais, longue, foncée.
Pas forcément, non. Ça aussi, c'est un préjugé. Hein.
Unie.
Pas forcément foncée, mais unie.
Voilà.
D'accord.
Pas de motif.
Pas de tissu imprimé. Oui.
Pour quelle raison ?
Pour rester modeste, pour ne pas mettre en valeur le corps féminin. C'est encore une manière de lire la Bible qui est très littérale.
Mais les hommes s'habillent comme ils veulent, en revanche ?
Non, pas du tout. Jacob Amann, le fameux, il a aussi dessiné un pantalon qui est toujours le même aujourd'hui. C'est le pantalon à pans qu'on trouve dans tous les États-Unis et au Canada où vivent aussi des Amish.
Qui est noir. Par contre, les chemises sont colorées. Et elles sont colorées suivant l'âge. Plus vous êtes jeune, plus vous portez des couleurs vives. du rose pour les jeunes filles, du rouge vif, du orange.
Moi, je suis tout en noir ce soir, donc est-ce que je pourrais être à Mich avec cette tenue-là?
Vous pourriez tout à fait, mais vous auriez déjà un âge
très avancé. Oh, je vais atteindre mes 50 ans.
Vous voyez, pour une fois que ce n'est pas moi. Allez, on continue.
Dans un sentier, pourquoi visiter une ferme?
Mais bien sûr, pourquoi il n'y a pas d'électricité dans cette ferme? Moi, j'ai envie de savoir ça, à toutes les curieux.
20h-22h, Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
On découvre une communauté secrète, énigmatique, qui vit aux États-Unis, plus précisément en Pennsylvanie, dans des fermes, qui sont les Amish. Ce sont nos invités, les journalistes Catherine et Jacques Légéré, qui nous servent de guide. Vous avez eu la chance de séjourner plus d'une trentaine de fois à leur côté, dans une ferme Amish. Vous allez nous la faire visiter, tiens, cette ferme. Ça ressemble à quoi, une ferme Amish ?
D'abord, je disais tout à l'heure que la campagne est très belle et les fermes sont magnifiques. C'est des grandes, grandes fermes qui sont isolées les unes des autres et qui sont construites de telle sorte qu'ils peuvent ajouter des ailes au fur et à mesure
des enfants,
des nécessités, ouais, des enfants et de loger les grands-parents puis les arrière-grands-parents. Donc, il faut imaginer une grande ferme, mais qui a l'avantage de pouvoir s'agrandir au fur et à mesure des nécessités. Et cette nécessité raconte la façon dont ils vivent. C'est-à-dire que, par exemple, les grands-parents, ils ne les placent pas, vous voyez. Tout le monde a sa place dans la maison. Et comme c'est facile en Amérique et chez eux de construire une aile et une deuxième et une troisième, on voit ces immenses, en fait, implants fermiers. Mais qui raconte comment ils vivent, effectivement, puisqu'il y a là la première génération, la deuxième, quelquefois la troisième. Il n'y a aucune nécessité de trouver des babysitters, vous voyez. Il y a 6 personnes là.
Ouf, pas de mode de garde. Combien d'enfants? Est-ce qu'il y a un nombre d'enfants minimum à avoir quand on a mis?
Les familles sont grandes.
Question de Béotienne.
En moyenne, entre 8 et 10, quoi.
Ah, c'est la moyenne?
Oui.
C'est une famille de 4, quasiment on n'en trouve pas 4 enfants.
Oui, bien sûr, ça arrive. Mais quand même, la moyenne, c'est entre 8 et 10 enfants. Et en même temps, comme je disais, il n'y a pas de nécessité de trouver des gens pour les garder. De la même manière, il n'y a pas la nécessité de placer les grands-parents.
C'est parce qu'ils refusent la contraception qu'ils ont autant d'enfants?
Oui, certainement. Mmh. Oui, oui.
C'est dans leur logique religieuse, ils sont protestants, hein, c'est ça.
Religieuse, tout à fait, oui. Ouais. Et puis ça pose ce principe que chacun a sa place toujours quelque part dans une.
On n'est jamais seul.
On n'est jamais seul, on n'est jamais rejeté, et il y a toujours une petite occupation pour quelqu'un. Et quelquefois, vous voyez, dans le coin de la cuisine, des arrière-grand-mères qui écossent des petits pois.
On n'est jamais.
C'est extraordinaire. Chacun a sa place.
On n'est jamais rejeté. Je rebondis sur cette expression, Catherine Légéré, parce que si, par exemple, une femme ou un homme amie, je tombe amoureux de quelqu'un qui ne l'est pas, et par faire vivre sa vie, est-ce que la famille reste solidaire? Est-ce qu'il n'y a pas là un rejet?
Oui, alors effectivement, il y a des limites. Hein. C'est un monde qui est quand même très limité, très cadré. Effectivement, à certains égards, dans certains événements, ils vont éloigner une personne pendant un certain temps, ça c'est sûr.
Est-ce qu'ils vivent effectivement avec 3 siècles de retard?
Non, pas du tout. Hein.
Ça, c'est un cliché.
Non, c'est absolument un cliché. Ils vivent selon les règles religieuses d'il y a 3 siècles.
C'est pas la même chose.
C'est pas du tout la même chose. Mais les règles civiles, disons, de l'organisation quotidienne, elles sont. Et ça s'appelle l'ordnung, hein, c'est le mot allemand, ils utilisent le mot allemand pour les règles. Elles évoluent, mais c'est toujours des règles orales. Et puis chaque district religieux peut avoir une règle différente du district d'à côté. Donc ça porte aussi à confusion pour le touriste, il ne comprend pas. Mais enfin, on nous avait dit qu'il n'y avait pas d'électricité, mais dans cette ferme, il y a de l'électricité.
Donc il y en a qui n'en ont pas d'électricité quand même?
Alors, il n'y a pas d'électricité publique, parce que l'électricité publique, c'est le danger numéro un. C'est l'introduction, c'est l'intrusion du monde externe qui peut arriver et donner des mauvaises idées. C'est la radio, par exemple, la télévision. Et ça, c'est très perturbant pour les Amish. Ils essayent de tenir le monde américain à distance, bien qu'ils le connaissent très bien.
Donc, ils sont un peu parano. J'essaye de vous titiller, là. Hein.
Non, mais c'est pas ça. Mais il y a une telle pression de la société américaine, comme vous pouvez imaginer. Hein. Nous, bien basket, sûr. Coca-Cola, on connaît depuis belle lurette.
Ah, le soft power, il est très puissant. C'est le cas de le dire là-bas, c'est sûr. Les États-Unis, ils ont su exporter leur civilisation.
Oui, ils sont au cœur de la société américaine. Mmh. Les Américains quittent New York, Philadelphie, viennent les voir, viennent acheter leurs produits parce que c'est bon. Mais il faut résister à ça.
Ouais.
Donc ils mettent des distances.
On a bien compris.
Est-ce que les enfants Amish vont à l'école? Bonne question. À toutes les curieux.
Vous en posez des bonnes questions.
Ouais, vous avez vu ça.
La curiosité est un vilain défaut.
Le mouvement anabaptiste est un mouvement insurrectionnel paysan qui sort du protestantisme.
RTL.
Sorel.
La curiosité est un vilain défaut.
En particulier, les Amish sont un de ces courants qui, à partir des Pays-Bas hollandais, ont migré en Amérique.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Ce sont des communautés du temps arrêté.
La curiosité est un vilain défaut.
L'énigme Amish, comment vivre au XXIe siècle comme au XVIIe, c'est le titre du livre de nos invités, Catherine et Jacques Légeret. C'est publié chez Labor et Fide. On l'a expliqué tout à l'heure, je vais le redire, vous, pour des raisons personnelles, vous avez tissé un lien particulier avec cette communauté, notamment en Pennsylvanie, et vous y retournez régulièrement, vous y avez fait une trentaine de voyages. Et alors, vous vouliez absolument, et vous en parlez d'ailleurs dans votre livre, et évoquer ce qu'on appelle les quilts, c'est ça? Alors, c'est pas des jupes écossaises, c'est quoi les quilts, Amish?
Les quilts, ce sont des patchworks surpiqués. C'est une technique qui n'a pas été inventée du tout par les Amish, mais ils ont découvert ça au contact des paysannes américaines vers 1840. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'ils font des quilts avec des chutes de tissus. Ils ne vont pas acheter des tissus pour faire des quilts. Hein. Ils font encore leurs habits à la maison. Ils découpent eux-mêmes les habits. Et puis avec les chutes, on va plus tard, dans deux ans plus tard, deux mois plus tard, il n'y a pas de règles. On va réutiliser ces chutes de tissu pour faire des quilts. Il y a trois sortes de quilts. Il y a le quilt de mariage. La jeune fille, elle reçoit trois quilts de mariage.
On les met sur les épaules, c'est ça? Sur les cheveux? Ça se porte comment?
Ce sont des couvertures de lit.
Ah, des grandes, oui, des gras, des surcouvertures.
Couvertures de lit. Nous, les collectionneurs, on les met contre les murs, n'est-ce pas? Parce que ça a un impact visuel extraordinaire. Ouais. Alors, la jeune fille, elle va recevoir trois quilts. Hein, parce que,
un dessus de lit, voilà. Je cherchais un mot aussi simple que ça. Un dessus de lit. Et Sidonie, elle ne m'aide pas. Hein.
Je cherchais un mot anglais, je ne sais pas pourquoi.
Mais donc, c'est de l'art, c'est si beau que ça pour vous? Est-ce que vous diriez que c'est de l'art Amish?
Oui, c'est de l'art populaire, absolument. Ouais. Et c'est extraordinaire, parce que c'est ces paysannes qui ont eu 10-12 enfants qui font des merveilles avec leurs mains. Mais c'est d'abord un acte d'amour, c'est pour ça que c'est extraordinairement beau.
Parce qu'on fabrique pour l'autre.
On fabrique pour l'autre, on fabrique pour les naissances. Donc il y a toujours, quand il y a 10 à 12 naissances, on va fabriquer un quilt. Et pour l'entrée d'Amish, on fabrique des quilts parce qu'ils refusent toutes les assurances sociales, médicales. Mais il faut payer quand même le médecin, il faut payer l'hôpital américain. Voilà, c'est trois circonstances dans lesquelles
donc
on va faire.
Donc on paye avec un quilt chez Amish?
Non. On vend un quilt aux enchères et avec l'argent, on paye les factures médicales.
Les enfants Amish, est-ce qu'ils vont à l'école?
Ah oui, ils vont.
Ou on fait l'école?
Non, ils vont dans la one-room school, la petite maison dans la prairie. Donc, il y a les huit.
Ça s'appelle comme ça?
Non, c'est nous qui
l'appelons comme ça. Mais ça ressemble à ça.
Comme ça, on a tout de suite la référence.
C'est exactement comme ça. Donc, il y a huit années scolaires uniquement. Et ma femme qui enseignait dans un collège secondaire en Suisse, je peux vous dire que chaque fois qu'elle y va, ça lui fait un choc.
Hein. Donc, ça commence à quel âge? 8 années. Donc, ça commence
ça
quoi?
Ça commence à 6 ans.
D'accord.
Pourquoi ça vous fait un choc, Catherine?
Parce que pour tenir les classes, moi, j'avais des adolescents entre 12 et 16 ans. Il faut une force du tonnerre, vous savez, il y a des questions de discipline qui prennent largement le pas sur ce qu'on a envie d'enseigner. C'est dur aujourd'hui, je pense, pour les enseignants, compte tenu de, oui, vraiment de la discipline. Et là, il ne se passe rien. Vous avez 35 élèves de tous les âges dans une grande pièce, mais sages, mais vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Où est le miracle? Et le miracle, c'est qu'ils n'ont jamais vu d'autres copains se lever, crier, être indisciplinés.
Ils n'ont pas Internet, ils n'ont pas YouTube, ils n'ont pas toutes ces inspirations. C'est ce que vous voulez dire aussi? Non, est-ce que ça joue ça?
Mais dans leur vie scolaire quotidienne, ça ne se passe pas. Et comme ils ne le voient pas, ils ne le reproduisent pas.
Mais qu'est-ce qu'ils apprennent? Parce que vous nous dites que c'est une communauté qui vit aujourd'hui, mais quand même avec des règles religieuses qui datent du XVIIe siècle. Est-ce que, par exemple, la science... Ils l'apprennent et comment l'apprennent-ils? Parce qu'elle peut être en contradiction avec ce que leur dit la religion.
Donc, ils apprennent selon le régime des trois R. Yeah. Reading, donc la lecture. Ouais. Writing, l'écriture. Arithmetic, l'arithmétique. Donc, c'est d'accord. Assez limité de ce point de vue-là.
C'est des faux R, en fait.
Vous avez failli nous avoir.
Donc, la science, non, c'est pas tellement important pour eux. Ce qui est important pour eux, c'est de savoir... cultiver la terre, élever les animaux. Et selon les spécialistes, ce sont les meilleurs agriculteurs au monde.
Parce que l'objectif pour un enfant, c'est de reprendre évidemment la ferme de ses parents Amish.
Oui, absolument.
C'est comme ça. On n'a pas vraiment le choix de son destin finalement quand on est Amish.
On a le choix parce qu'on est Amish du verbe naître. Mais on devient amish par choix à l'âge de 18 ans. Donc c'est pas tout à fait la même chose. C'est pas une obligation d'être amish. Hein.
Ce qui est passionnant, c'est que c'est pas que vous les défendez, mais on sent que vous aimez cette communauté. Pour nous, ça nous semble un peu hors du temps, un peu étonnant. Vous-même, j'imagine que vous ne vivez pas pareil, tous les deux, en Suisse. Et pourtant, vous avez envie de les défendre et de montrer une autre image d'eux.
Ben oui, parce qu'ils nous interpellent, hein, leur mode de vie. Moi, ça me fascine, la non-violence. Le refus du prosélytisme, c'est quelque chose d'extraordinaire. Enfin, une religion qui quine pas les autres.
Ils sont protestants, hein, faut
ils
le rappeler.
Ils sont protestants, oui. Donc,
ils font pas le tour des voisins pour leur dire « devenez protestants comme nous, ouais. Devenez amish », c'est ça.
Ouais.
Mais vous, est-ce que vous avez voulu devenir amish?
On n'est pas fous, hein.
Vous aimez regarder la télé, écouter RTL.
Il y a des limites, oui, c'est ça.
Donc une fois, on a demandé à une femme amiche si on pouvait devenir amiche. Elle a levé les bras au ciel, je les vois encore, les a laissés retomber sur sa jupe. Mais au monde, pourquoi voudriez-vous devenir amiche? C'est déjà si difficile pour nous qui sommes nés amiche d'être amiche.
Donc ils le déconseillent.
Absolument.
Si des gens viennent leur demander, ils le
déconseillent. Qu'est-ce qui est dur? Qu'est-ce qui est si dur pour eux?
Vous savez quoi? Il y a des Américains de temps en temps qui essayent, hein, parce qu'ils sont attirés, ouais. Vous comprenez, il n'y a pas de montre. Hein. Le temps qui passe, c'est pas notre temps à nous. Et puis, ils essayent de temps en temps, quoi. Alors, il y en a un ou deux qui essayent de se mettre dans la communauté amiche, et puis ça dure un an, ça dure deux, troisième, ils craquent. Et devinez sur quoi?
À vous de répondre. Maintenant.
Quelque chose qui est vraiment, mais à un moment donné,
des rôles.
Ça devient intenable.
La vie en communauté, ouais. avec toutes les...
Non, pas la vie en communauté.
Le culte, tous les jours, non.
Le fait d'être sur le regard des autres tout le temps.
La vitesse. Tout donc, vous savez, c'est
ça va pas assez vite.
Donc la lenteur.
La lenteur. et Dieu sait que c'est un luxe aujourd'hui, non?
Oui, oui.
La lenteur.
Ils sont d'anciens Suisses, donc c'est facile pour eux.
Non, Très drôle.
On l'aime la lenteur, mais quand on l'a choisie, et puis on aime bien quand ça va aussi un peu vite. On aime bien les deux.
Voilà. Mmh. Au bout d'un moment, là, en tout cas, ces Américains qui ont eu l'habitude de conduire des bolides, de se placer en avion, tout d'un coup, ils n'en peuvent
très drôle.
Plus. Et c'est là-dessus qu'ils craquent, contrairement à ce qu'on peut imaginer.
Alors très prosaïquement, ce sont des paysans. Hein, oui. Vous nous dites que la terre est quelque chose de très important. Oui. Comment ils produisent? Est-ce qu'ils produisent avec des techniques modernes? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils refusent par exemple le tracteur? Est-ce qu'ils refusent les pesticides, j'espère? Comment ils produisent?
Ils refusent absolument le tracteur. Ils travaillent à terre uniquement avec des chevaux, et notamment avec des chevaux d'origine française.
Mmh.
Il y a des images extraordinaires. Vous avez un paysan qui laboure son champ avec des percherons,
ouais.
Originaires de...
Du perche, ce chevaux magnifique.
Parce
qu'ils estiment
que, voilà, ils estiment que le cheval, c'est le seul outil qui permet de respecter la terre, alors que les tracteurs vont compacter la terre.
Quitte à être moins efficaces. Mais vous nous disiez tout à l'heure qu'ils ne sont pas dans la performance, donc, ou dans la compétition, donc ça ne les intéresse pas.
Et puis encore une fois, selon les spécialistes, ils sont ultra productifs, mais à leur vitesse.
Est-ce que c'est bon, ce qu'ils produisent?
Est-ce qu'ils le vendent à l'extérieur de leur communauté?
On a plein de questions à vous poser. Alors,
c'est bon, oui, oui, ouais. C'est bon, c'est sûr. Ils viennent au marché parce qu'il y a des petites villes américaines dans cet endroit de Pennsylvanie, tenu par des Américains, mais là, il y a un marché amish. Et alors, ils vont vendre leurs produits, leurs bocaux, notamment de fruits, de légumes, leurs poulets, leurs œufs. Et c'est envahi par les Américains parce qu'effectivement, c'est très, très bon.
Et si on parlait des femmes un peu dans cette communauté amiche, tout à l'heure, Jacques Légéret, on parlait de la tenue, cette tenue qui a plus de 3 siècles, qui est toujours la même, parce qu'il ne faut pas éveiller le désir avec des tenues trop farfelues ou en tout cas pas manifester de motifs, on est vraiment dans l'uni. C'est quoi le rôle de la femme amiche? C'est la chef de famille?
C'est une partenaire.
Ouais.
C'est une partenaire. C'est effectivement un petit peu chacun son domaine.
Donc la femme amiche tient la maison, c'est
voilà,
ça?
Voilà, elle tient la maison, elle s'occupe des enfants, elle va faire ses quantités de bocaux ahurissantes pour tenir l'hiver, etc. Et puis, le mari, il est au champ, c'est le fermier, voilà.
C'est pas une société, pardon, hein, mais un peu machiste, dans laquelle les hommes prennent plutôt les décisions.
On pourrait y penser au premier abord, mais c'est véritablement une partenaire, elle a son mot à dire, elle a son importance, elle est les soucis, les droits et les devoirs sont également partagés.
Est-ce qu'une femme amiche peut divorcer, par exemple, ou un homme?
Non, c'est exclu. Si, oui,
on ne se sépare pas chez
les amis. Selon la loi américaine, ils peuvent divorcer, bien sûr. Mais s'ils divorcent, ils seront exclus de la communauté, bien sûr. Mais je veux revenir sur le rôle de la femme. c'est une société patriarcale dont la femme est la colonne vertébrale. Ce qui apparaît un petit peu antinomique, mais de mon point de vue, c'est ça.
Alors, on parlait de ces patchworks, de ces quilts qui, vous disiez, c'est une forme d'art amish. Il y en a un autre, il y a un vrai talent, qui est le talent du chant. On va écouter ces chants. Le chant, il est forcément lié à la religion ou il peut être pratiqué en dehors de la messe, des offices ?
Les deux. Donc, c'est des chants d'ailleurs historiques. Hein. Donc, ce que vous venez d'entendre là, ça s'appelle un slow tune. Donc, c'est un chant au rythme très lent. Mm-hmm. Pourquoi ce chant un peu spécial ? C'est parce que quand on les persécutait en Europe, les amis chantaient beaucoup. Ils étaient des gens très croyants, ils le sont encore. Et les geôliers se moquaient d'eux en dansant sur leurs chants religieux. Donc, ils ont ralenti le rythme de tous les chants amish. Et ces chants-là ont été transmis oralement depuis 1530. C'est unique au monde aussi. Et il y a toujours un spécialiste dans chaque famille, qu'on appelle le four singer, c'est-à-dire celui qui entonne le chant. Mm-hmm. Et des fois, une syllabe, ça peut durer 5 secondes. Hein. Ça empêche les gens de se moquer d'eux et de danser. Donc, c'est très, très spécial comme musique.
Les amish, c'est une communauté heureuse.
Ah, sans doute.
On peut être nos violents, avoir des tristesses quand même.
En même temps, c'est pas eux qui vont vous dire nous on est heureux, etc. Mais si vous voulez, ils ont trouvé d'abord chacun sa place, et puis ils ont cette capacité extraordinaire de s'émerveiller de ce qu'ils ont. Et ils n'ont pas des espérances inatteignables ou des espoirs absolument incroyables. C'est vraiment contenu dans leur environnement. Et puis leur jardin les enchante, les petits pois qui poussent, ils sont ravis. Il y a quelque chose de très immédiat. Et en même temps, cette capacité d'émerveillement, mais renouvelée, je crois que c'est là qu'ils trouvent en tout cas un certain équilibre.
Et le bonheur. Merci beaucoup Jacques. Merci. Et Catherine Légéré, je rappelle que vous publiez l'énigme Amish, c'est aux éditions Labor et Fides. Et puis vous serez aussi en conférence Jacques à Poitiers du 1er au 3 avril et à Villefranche-sur-Saône du 13 au 16. Merci infiniment, à très bientôt.
Vous écoutez RTL.